l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers.
Des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
La philosophie n'est pas un ustensile.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 2 avril 2014, R comme rhinocéros d'or, par François-Xavier Fauvel-Aymar. Les restes engloutis d'une église chrétienne dans le nord du Soudan, une lettre d'un marchand juif à propos d'une caravane venue du pays des Noirs, ou encore la découverte de ballots de coquillages au milieu du Sahara, un rhinocéros d'or pillé puis retrouvé en Afrique du Sud. Autant de fragments, autant de documents qui témoignent de la diversité et de la richesse de l'Afrique au Moyen-Âge. De ces fragments, François-Xavier Fauvel-Aymar fait un vitrail qui nous révèle des royaumes de toute taille, des empires de la savane d'Afrique de l'Ouest aux principautés côtières du Kenya et de la Tanzanie. Guidé par les voyageurs et les géographes anciens, renseignés par les recherches archéologiques récentes, on peut reconstituer l'histoire des siècles d'or de l'Afrique médiévale. François-Xavier Fauvel-Aymar est directeur de recherche du CNRS à Toulouse Le Mirail, laboratoire Trace, pôle Afrique. Il est également chercheur associé au centre Jacques Berck à Rabat, Maroc, et chercheur honoraire à l'université du Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud. Il vous propose ce 18e rendez-vous de la 5e saison de l'Agora des Savoirs.
Merci et bonsoir à tous. Alors je dirais hasard funeste un peu du calendrier, au moment où nous accueillons un médiéviste, nous disons au revoir à un autre médiéviste et pas des moindres, puisque hier donc a disparu Jacques Le Goff. Évidemment vous en êtes sûrement au courant, et Jacques Le Goff avait préfacé en 1985 un ouvrage qui était un ouvrage de quelqu'un qui s'appelle François de Médéros et qui s'appelait L'Occident et l'Afrique, 13e-15e siècle, images et représentations. Et j'aimerais, pour introduire cette séance, vous citer la dernière phrase de la préface de Jacques Le Goff. Il écrivait en 1985 : sur le passé aussi peut s'appuyer, pour en rejeter les préjugés et en faire épanouir les germes de solidarité, la construction d'une humanité plurielle et multicolore. Il me semble que ça valait la peine aussi d'être rappelé en hommage à Jacques Le Goff. Alors nous recevons donc aujourd'hui François-Xavier Fauvel-Aymar, historien spécialiste de l'Afrique, qui est donc directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Trace de Toulouse, chercheur honoraire à la Witwatersrand University de Johannesburg. Et ses premiers ouvrages ont d'ailleurs été consacrés plutôt à l'Afrique du Sud, notamment l'invention du Hottentot, paru en 2002, où il retraçait l'entrée en littérature des peuples Khoisan d'Afrique du Sud, ce que nous avons parfois tendance à appeler, mais il ne faut pas le faire, des Bushmen. Et puis son histoire de l'Afrique du Sud, paru en 2006. Alors, il a également conduit de très nombreuses missions archéologiques en Afrique, notamment en Éthiopie et à Sijilmassa au Maroc, puisqu'il est aussi le co-directeur de la mission archéologique franco-marocaine de Sijilmassa. Et puis on retiendra aussi, parmi ses publications les plus marquantes, son essai sur la mémoire aux enchères, l'idéologie afrocentriste à l'assaut de l'histoire, paru chez Verdi en 2009, qui était une analyse percutante et sans complaisance de l'afrocentrisme et une sorte de réponse scientifique aussi à quelques-unes des interrogations soulevées par l'afrocentrisme, du type Cléopâtre était-elle noire, et la déesse Athéna, et Socrate, etc., et où il n'omettait pas de réaffirmer, non sans un certain humour, que oui, Socrate était très probablement blanc. Alors, il est venu aujourd'hui nous présenter le Rhinocéros d'or, livre qui a été couronné du Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois en 2013, et il se place ici délibérément sur un autre terrain, en proposant une exploration qui est à la fois minutieuse et fragmentaire d'un Moyen-Âge africain, d'autant plus difficile à pénétrer que l'absence d'archives au sens de sources écrites et l'interruption de mémoire n'en ont laissé subsister que, et je le cite, des traces vives mais incertaines, des traces orphelines d'ensembles politiques qui se sont irrémédiablement effacées. Alors, il se refuse néanmoins, et fort heureusement pour nous, je dirais, à en prendre son parti, mais il n'oublie pas, dans une mise en garde que je trouve tout à fait salutaire, de nous avertir qu'il faudra se résoudre à ne pas toujours comprendre ce que l'on voit. Et il accepte au final de se lancer dans l'écriture d'une histoire dont il sait par avance qu'elle sera incomplète, mais que finalement cette incomplétude même n'est pas pour autant incompatible avec son ambition, et là je reprends l'image qu'il présente, cette idée de composer une image en vitrail de ce Moyen-Âge africain, hein, une image en fragments éclatés que pourrait venir justement compléter les découvertes encore à faire ou d'éventuelles transformations de sens. Alors je me suis évidemment demandé d'une certaine manière aussi si l'ouvrage n'était pas en quelque sorte une forme de réponse un peu distanciée et dépassionnée au fameux discours de Dakar, hein, que Nicolas Sarkozy avait prononcé sous la plume d'Henri Guénaud, parce que finalement ce qu'il nous dit dans cet ouvrage, c'est aussi que si l'homme africain n'a pas eu à entrer dans l'histoire, c'est tout simplement parce qu'il était déjà dans l'histoire. N'en déplaise à certains, et en dépit de l'absence quasi totale de sources qui sont des sources écrites. Mais évidemment, depuis au moins l'école des annales, il me semble que l'historien sait bien que toute trace est aussi une source, et que, pour citer Marc Bloch, le bon historien ressemble à l'ogre de la légende, là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Et l'auteur n'hésite pas ici à se faire à la fois archéologue ou aussi anthropologue lorsqu'il le faut, pour mieux décrypter les traces assez incertaines parfois de cette Afrique médiévale, une Afrique médiévale qui a en commun d'être une périphérie active du monde islamique, et que les regards successifs que portent sur elle Al-Bakri, Al-Idrisi ou encore Ibn Battuta, pour ne citer que les plus célèbres des géographes arabes, permettent quand même d'éclairer. Alors au-delà de cette Afrique, je dirais que le rhinocéros d'or fait aussi coïncider l'ambition de son auteur, c'est-à-dire cette Afrique éclatée, cette Afrique peut-être aussi ambiguë, hein, comme l'écrivait Georges Balandier, et la forme même de l'écriture, empruntant notamment des chemins de traverse, acceptant de considérer que l'histoire a maille à partir avec l'hypothétique, s'inscrivant à mon sens dans de nouvelles formes d'écriture de l'histoire qu'ont pu emprunter assez récemment, mais dans des registres un peu différents, à la fois un Patrick Boucheron dans son Léonard et Machiavel, mais aussi un Nicolas Offenstadt dans son récent En place publique, pour n'en citer que deux. Et je dirais, pour filer un peu la métaphore caravanière, que plutôt qu'une sorte de ligne droite téléologique, eh bien, il préfère suivre dans le désert documentaire qui est le sien les ondulations des dunes ou les courbes d'un oued et sauter allègrement d'oasis en oasis, quitte à s'arrêter en route à la recherche d'une épave caravanière totalement disparue depuis les relevés qu'en avait effectué Théodore Monod dans les années 60, partant souvent de scénettes très savoureuses pour en tirer une sorte de quintessence historique et découvrir la trame complexe qui les sous-tend, notamment par exemple pour la production des eunuques en Abyssinie, nous faisant naviguer finalement de Sijilmassa à Aksum, en passant par le Grand Zimbabwe ou Madagascar, et des effleurements des premiers marins chinois à la grande aventure de Vasco de Gama, signe annonciateur de la fin d'un monde pour l'Afrique, mais aussi sans doute d'ailleurs pour l'Europe. Le tout au sein d'un parcours qui est globalement chronologique, hein, et qui débute au lendemain de la conquête arabe et qui se clôt sur l'irruption des Européens sur les côtes africaines, sans oublier d'interroger un certain nombre de nos concepts historiques, hein. Qu'est-ce vraiment qu'une ville? Qu'est-ce vraiment qu'un royaume? Qu'est-ce vraiment qu'un roi? Et de se demander si de tels concepts sont vraiment opératoires lorsqu'il s'agit de décrire ces réalités africaines. Je terminerai en disant que, en sous-titrant son ouvrage « Histoire au pluriel », il renoue aussi en fin de compte avec celui qui fut il y a très longtemps le père même de l'histoire, Hérodote, porteur d'un regard qui était d'ailleurs très novateur pour l'époque, mais très étranger aussi sur les Égyptiens qu'il découvrait alors. Et c'est finalement comme un certain retour aux sources aussi de la part d'un historien qui n'oublie pas qu'il possède une certaine filiation avec l'aide grecque, ou mieux dans le contexte peut-être avec le griot, et qu'il est temps maintenant de nous laisser conter justement cette histoire du rhinocéros d'or.
Alors bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venu assister à cette conférence sur l'Afrique. Merci beaucoup Vincent pour cette introduction qui a très bien posé les choses, notamment sur le caractère fragmentaire à la fois de la documentation, lorsqu'on est historien de l'Afrique, et à la fois aussi du récit que j'ai voulu faire dans ce livre qui s'intitule le rhinocéros d'or. Ce caractère fragmentaire, j'y reviens une seconde avant de commencer véritablement cette conférence, c'est le véritable régime documentaire auquel on a affaire lorsqu'on travaille sur l'Afrique ancienne. Et par Afrique ancienne, je veux dire Afrique avant le XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, on dispose d'une pléthore de documents, pour certaines régions d'Afrique, les régions côtières de l'Afrique, Atlantique en particulier, on dispose de sources européennes dans les différentes langues européennes, à commencer par le portugais et par le hollandais, qui nous permettent d'avoir accès à ces sociétés à peu près à l'égal de l'accès qui est le nôtre pour les sociétés qui ont produit leurs propres écrits. Et ça n'est pas le cas, évidemment, dans l'Afrique ancienne, où c'est très rarement le cas en Afrique ancienne, puisque rares sont les sociétés africaines, même si elles existent, qui ont produit leur propre documentation écrite. Les exceptions, par exemple, c'est l'Éthiopie, qui a produit depuis à peu près, depuis presque 2000 ans, avec des creux et des pleins, qui a produit sa propre documentation écrite, ses propres archives. Donc on a très, très peu de sociétés africaines ont produit leur propre documentation écrite, qui permettrait aujourd'hui de s'appuyer sur ces documents pour relater l'histoire. Donc en effet, un régime documentaire lacunaire. Un régime documentaire lacunaire qui est une invitation à rechercher en permanence de nouveaux documents, et par documents, je veux dire non pas seulement de l'écrit, mais des documents d'une autre nature, voilà, qui peut être matériel sous la forme de sites archéologiques ou la forme d'objets, ou qui peut être d'autres types de documents, qui peuvent être ethnographiques, ou autre. Donc c'est un défi, c'est l'histoire ancienne de l'Afrique est véritablement un défi qui se pose à l'historien et qui en miroir éclaire aussi le travail de l'historien tout court, en particulier en lui posant des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un document, comment le document nous est parvenu, à quelles conditions le document est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Une question qu'on ne se pose pas toujours lorsqu'on lit un livre d'histoire et qu'on zappe les notes de bas de page ou les notes de fin de chapitre, on ne se pose pas toujours la question de savoir à quelles conditions est-ce que l'historien qui me raconte cette histoire le sait. Bon, et le travail d'historien en Afrique est une invitation permanente à se poser ce genre de questions, compte tenu de la rareté de la documentation, compte tenu des contradictions souvent apparentes entre deux documents qui peuvent nous parler d'un même lieu à un siècle d'écart, mais pas du tout dans les mêmes termes, ou parfois même d'un document archéologique et d'un document textuel qui nous parle de la même chose, mais de toute évidence pas de la même chose non plus. Donc c'est à cette histoire-là que je voudrais vous inviter ce soir, en partant. Alors je vais pas vous raconter mon livre, qui est une espèce, comme l'a très bien dit Vincent, qui essaie de refléter dans son organisation même ce régime documentaire lacunaire, et qui pour cette raison épouse une architecture fragmentaire. Bon. Alors fragmentaire, ça ne veut pas dire des fragments éparpillés que je m'amuserais à collecter comme ça un peu au hasard, d'où l'image de vitrail que j'ai développé dans l'introduction, et que je vais essayer aussi ce soir de vous présenter sous la forme donc d'un vitrail, c'est-à-dire une collection de fragments organisés qui permettent malgré tout de voir une image se dessiner. Et cette image, c'est effectivement que l'Afrique, c'est une évidence, l'Afrique a toujours et déjà été dans l'histoire, et qu'en plus, à certaines périodes et pour certaines régions, on peut la raconter. Alors le prétexte du titre de cette conférence, « R comme rhinocéros d'or », qui est aussi l'accroche visuelle et de titre de mon propre livre, c'est ce rhinocéros. Ce petit rhinocéros en or qui vient d'un site dont je vais parler dans une seconde, en Afrique du Sud, et qui m'a semblé être une très bonne image qui permettant d'exprimer d'emblée la façon dont l'Afrique a été reliée au reste du monde au cours du Moyen-Âge. D'abord parce que c'est un animal africain, c'est aussi un animal en or, là, le principal produit qu'exportaient les grands royaumes africains du Moyen-Âge. Et puis on a retrouvé cet animal dans des conditions, dans les circonstances particulières dont je vais parler tout de suite. Alors ce petit animal qui tient dans la main, comme vous pouvez le voir, est un petit rhinocéros qui n'est pas en or massif, qui est en feuilles d'or, martelées et qui avaient été clouées initialement sur une âme, un support, une âme de bois, qui a disparu, hein, tout comme tout ce qui est organique, ça a disparu, il ne restait que l'or. Ce petit animal a été retrouvé sur la colline que vous voyez en haut à droite de l'image, qui s'appelle Mapungubwe, à l'extrême nord de l'Afrique du Sud, juste en surplomb du fleuve Limpopo qui dessine la frontière avec le Zimbabwe. Et sur cette colline, dont le nom signifie la colline au chacal en langue Shona, ont été trouvés dans les années 30 par des colons sud-africains blancs des tombes qu'ils se sont empressés de piller hein, dans un premier temps, avant d'être pris de remords et de contacter le prof d'histoire qu'avait eu l'un des pilleurs à Pretoria, et qui a immédiatement compris de quoi il s'agissait. Et depuis lors, le site a été fouillé professionnellement et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors sur cette colline se trouvaient un certain nombre de tombes. Tombe de quoi, de qui, difficile à dire. Tombe royale, hein, disent certains. Mais évidemment, comme on n'a pas de source écrite se rapportant à ce site archéologique, difficile de savoir si les gens qui étaient enterrés là étaient rois ou chefs ou n'importe quoi d'autre. Bon. Donc tombe tout court, tombe d'élite, qui contenait non seulement ce petit rhinocéros en or, mais d'autres petits animaux en feuilles d'or, qui ont été restaurés, hein, et puis toute une série d'objets que vous voyez là, j'en montre que les plus significatifs. Alors oui, en haut à gauche de l'image, une photo prise par l'archéologue qui a fouillé professionnellement ce site pendant des années, après avoir découvert le site tel qu'il est là, c'est-à-dire pillé. Bon. Et donc un certain nombre d'objets ont été sortis de ces sépultures, non seulement des objets en or, des poteries, mais aussi, comme vous pouvez le voir à droite de l'image, des milliers de petites perles en pâte de verre, dont je vais reparler. Vous voyez, des perles minuscules de 1 à 2 mm, de toutes les couleurs. D'autres objets, vous voyez en bas à droite, des coquillages qui s'appellent des coris, qu'on appelle des porcelaines en français, mais qui sont des coris, avec encore des perles. Et puis à gauche, vous voyez deux fragments d'un type de poterie, cuite à une très haute température et exprimant une technologie très très particulière. C'est un grès cérame, une porcelaine verte, ouais, qui provient de Chine. Alors je saute complètement à travers l'Afrique pour vous présenter un autre site, donc autre fragment documentaire, et vous verrez après comment tout ça fait sens. On va maintenant se diriger vers l'Éthiopie, où là aussi, dans des tombes là aussi d'élite, puisqu'il est difficile de les caractériser autrement, faute là encore de sources écrites, des tombes qui datent de la même période que pour la tombe d'Afrique du Sud, c'est-à-dire en gros du 11e, 13e siècle. Là, il s'agit non pas de sépultures individuelles, à la différence de Mapungubwe, mais de sépultures collectives. Vous voyez un relevé fait après la fouille de l'une de ces sépultures, un tumulus, donc un amoncellement de pierres au-dessus d'une sépulture collective. Vous voyez, toutes les petites pastilles jaunes sont des crânes humains, et puis le reste, c'est le reste du mobilier, des céramiques, etc., et d'autres éléments de mobilier funéraire. Et là aussi, dans ces tumulus qu'on connaît par dizaines, dans une région assez restreinte d'Éthiopie actuelle, ont été trouvés donc des sépultures, et là encore un mobilier dont le plus significatif sont ces milliers de perles. Là encore, très similaire, d'ailleurs totalement identique à celle de Mapungubwe, des toutes petites perles, là encore, en pâte de verre, de différentes couleurs. Alors oui, j'ai oublié de préciser aussi, puis d'autres perles que vous voyez en haut à droite, qui ne sont pas en verre, celles-ci, qui sont dans une pierre qu'on appelle la cornaline, voilà, une pierre rouge, des perles facettées et polies, hein, qui proviennent vraisemblablement du nord-ouest de l'Inde. Et puis encore un saut à nouveau à travers l'Afrique, cette fois-ci pour nous diriger vers l'Afrique de l'Ouest, en plein milieu du Sahara, dans ce que Théodore Monod, après d'autres, a appelé le empty quarter du Sahara, c'est-à-dire le quartier le plus vide, hein, du Sahara, le plus vide d'hommes et le plus vide de végétation. Ce que vous voyez en fond d'image, c'est une image Google Earth que j'ai été chercher sur Internet et qui vous montre la région d'où provient le site dont je vais vous parler. Et l'image que vous avez à l'écran représente un rectangle de 200 km sur 150. Voilà, entièrement vide dans l'est de la Mauritanie. Le seul élément remarquable sont les alignements de dunes, hein, les alignements dunaires. Et c'est précisément là qu'au milieu des années 60, Théodore Monod, que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, s'est fait sur la base d'un signalement par des chasseurs berbères de cette région, a entrepris une expédition accompagnée de quelques hommes et avec quelques chameaux et une importante charge d'eau à travers cette région pour aller retrouver ce site qui avait été simplement mentionné oralement. Alors, à l'époque, il n'existait pas de GPS, donc pas moyen, une fois qu'on avait localisé le site, d'enregistrer tout simplement un point GPS pour y revenir. Donc Théodore Monod avait fait les choses très très bien. Il avait noté sur ses carnets tous les jours le nombre d'heures de marche et la direction. Il avait fait toutes les observations possibles, il avait compté les dunes, hein, bon, et on sait à peu près exactement, on connaît par le détail, hein, l'itinéraire qu'il a emprunté, le nombre d'heures de marche après la 137e dune, le nombre d'heures à gauche ensuite, pendant, bon, et puis voilà. Et puis là, le site est là. Le site est là, c'est pas plus grand que ce que vous voyez à droite, c'est un petit site qui fait 2 mètres de longueur pour une trentaine de centimètres de hauteur. Ça ne se voit pas depuis une image satellite, c'est impossible à trouver au hasard, hein. Bon, et d'ailleurs ce site était là depuis 900 ou 1000 ans, bon. Et inutile de vous dire que les précautions prises par Théodore Monod pour enregistrer le lieu, hein, n'ont jamais été suffisantes puisque le site n'a jamais été revu, bon. Et par conséquent, les informations collectées par Monod ce jour-là et en quelques heures seulement, parce que les conditions du travail de Monod ont été telles qu'arrivé là, après une quinzaine de jours de marche à travers le désert, il n'a pu passer que 6 ou 7 heures sur le site d'enregistrement archéologique, hein, et puis repartir dans l'autre sens pour à nouveau plus d'une dizaine de jours de marche. Donc les informations collectées par Théodore Monod dans ces conditions-là, et l'enregistrement documentaire qui est le sien, qui est absolument exceptionnel compte tenu du faible temps et des conditions de travail, n'ont jamais suffi, hein, pour retrouver ce site. C'est pourtant suffisant pour en parler et pour nous dire ce qu'on peut en dire. Voilà comment se présente le site. Monod a fait quelques photos argentiques. Bon. Il a prélevé un certain nombre d'objets en fonction des capacités, hein, de charge qui étaient les siennes, pour pouvoir étudier ces objets ensuite à Dakar. Il a fait une toute petite fouille archéologique. Il a planté un bâton, une mire de 1 mètre. Il a fait 4 croquis pour pouvoir ensuite être capable de réobserver ses propres carnets et de proposer une interprétation du site. Et en quelques heures, il a obtenu cette documentation-là. Ce site est constitué de barres, de centaines de barres de laiton que vous voyez à gauche, et puis de milliers de petits coquillages, à nouveau des coris, que vous voyez à droite. Et les observations faites par Monod lui ont permis, avec certaines vraisemblances, de reconstituer ce qui était l'apparence originelle, hein, de ce site, c'est-à-dire un chargement. Tout simplement un chargement de faisceaux de tiges de laiton avec des balles de coris posées dessus, qui avec le temps se sont tout simplement effilochées, enfin voilà, se sont éparpillées sur le site, d'abord encellées, hein, et puis ensuite voilà, éparpillées. Et ce site est resté intact pendant plusieurs siècles. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est tout simplement une épave caravanière, hein, le chargement de 2 ou 3 chameaux qui a été posé là pour des raisons, qui a été abandonné là pour des raisons inconnues. Alors ces trois sites que je n'ai pas totalement choisis au hasard, vous vous en doutez bien, ces trois sites datent à peu près tous de la même époque, hein, c'est-à-dire en gros, on va dire 11e, 13e siècle. C'est-à-dire en plein cœur du Moyen-Âge. Ils proviennent de contextes archéologiques relativement différents, puisque dans les deux premiers cas, il s'agit de tombes, mais dans le premier cas, de tombes individuelles, dans le second cas, de tombes collectives, donc clairement païennes, en tout cas pré-musulmanes et pré-chrétiennes. Et puis dans le troisième cas, d'une épave, hein, caravanière. Malgré tout, il présente des aspects communs tout à fait frappants. Et notamment, la quasi-identité du mobilier, hein, c'est-à-dire les objets pardon, mobilier est un terme archéologique pour dire les objets qu'on trouve sur ces sites. Et en particulier, ces perles, ces minuscules perles, en pâte de verre multicolore qu'on retrouve dans les deux premiers sites, les perles en cornaline en haut à droite qu'on retrouve également dans les deux premiers sites, les cories qu'on retrouve sur les trois sites, et puis les fragments de porcelaine chinoise qu'on ne retrouve que dans un seul site à Mapungubwe, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'autres sites. J'ai pris simplement ces trois exemples-là parce qu'ils sont, ils sont emblématiques, et puis ils sont décrits dans mon livre, mais beaucoup d'autres sites de cette époque-là présentent un profil archéologique tout à fait similaire, avec un assemblage d'objets mobiliers tout à fait similaire qui s'inscrivent dans ce répertoire d'objets-là, avec donc des coris, des perles en pâte de verre, des perles en cornaline et de la vaisselle importée. Alors maintenant, question que vous vous posez tous. Mais d'où viennent donc ces objets? Eh bien, lorsqu'on s'amuse à regarder, à étudier de près d'où viennent ces objets, il s'agit dans tous les cas d'objets importés. Les coris se récoltent. Alors, des variétés de porcelaine de ce type-là peuvent se récolter dans tous les océans de la Terre, mais ce type de coris-là est un coquillage endémique de l'océan Indien, qui se récolte sur toutes les plages de l'océan Indien tout court, mais qui a été produit de façon industrielle au Moyen-Âge dans une région qui est les Maldives, l'archipel qui est au sud-ouest du sous-continent indien. On a là des témoignages écrits d'auteurs arabes en particulier qui nous racontent la culture intensive et la récolte quasi industrielle de ces coquillages pour l'exportation, non seulement en direction de l'Afrique mais aussi en direction de l'Asie. Les perles en cornaline sont une production traditionnelle du nord-ouest du sous-continent indien depuis plus de 3000 ans. C'est un savoir-faire qui existe jusqu'à aujourd'hui, avec une chaîne opératoire qui va de la mine jusqu'au polissage de ces perles, qu'on retrouve là aussi donc en Afrique dans beaucoup de régions. Les perles, cette variété de perles en pâte de verre très très petite et dans cette gamme de couleurs là, sont des perles qui ont été appelées par le grand spécialiste de cet objet des perles indo-pacifiques, tout simplement parce que la région de production recouvre à la fois l'océan Indien oriental et l'extrême ouest de l'océan Pacifique. Voilà, j'ai posé sur la carte les différents points qui sont des ateliers de fabrication connus depuis la fin de l'Antiquité jusqu'à toute la période médiévale de ces perles indo-pacifiques. Et puis les porcelaines, donc comme je l'ai dit, une variété de poterie cuite à une très haute température, les porcelaines, c'est un savoir-faire au Moyen-Âge, hein, jusqu'au début de l'époque moderne, c'est un savoir-faire exclusivement chinois. Et les porcelaines, les graisses érames et les porcelaines qu'on retrouve dans divers sites africains, alors ce plat vient du nord de Madagascar, il est dans un site médiéval qui s'appelle Voemar au nord de Madagascar, mais on trouve des fragments un peu partout dans l'Afrique, dans les sites de l'Afrique médiévale. Donc voilà quelques grandes zones de production de ces objets qu'on retrouve dans pas mal de sites archéologiques africains du Moyen-Âge. Alors, cette connexion à très longue distance entre l'Afrique et l'Asie peut faire naître immédiatement une interrogation, mais les Chinois ont-ils donc, hier comme aujourd'hui, fréquenté l'Afrique, commercé en Afrique, vendu leurs produits en Afrique contre d'autres produits qu'ils allaient y chercher? Et en effet, on pourrait le croire sur la base de quelques témoignages, dont je parle aussi dans le livre, et dont le plus fameux est sans doute celui de Zheng He, amiral de la dynastie Ming dans le premier tiers du XVe siècle, qui a laissé une documentation sur ses voyages, voyages qui étaient à la fois diplomatiques, politiques et commerciaux, bon, et dont le plus lointain de ces voyages a conduit Zhengye jusqu'en Somalie. Bon. Je m'empresse d'ouvrir une parenthèse pour dire qu'il existe une fausse controverse depuis quelque temps visant à dire que Zhengye aurait découvert l'Amérique. Évidemment, comme toujours, je dirais, les lacunes des textes et le flou des descriptions laissent prise hein, à ce genre d'extrapolation totalement illégitime. La vérité est que dans le voyage qui a conduit Zhengye le plus loin vers l'ouest, les toponymes qui sont mentionnés, les lieux qui sont mentionnés expriment tout à fait clairement le fait qu'on est en Somalie et pas ailleurs. Voilà, donc j'ai mis un petit texte qui est extrait de l'un des documents laissés par Zhengye. Les produits du pays. Donc c'est donc un Chinois qui parle hein, sur en gros quel est le marché local somalien. Les produits du pays sont les lions, les léopards tachetés d'or, les oiseaux chameaux, c'est-à-dire les autruches, qui font 6 à 7 pieds de haut. Ils ont aussi de la salive de dragon, c'est de l'ambre gris, de l'encens et de l'ambre doré. Comme marchandise, ils prennent le vermillon, la soie de couleur, l'or, l'argent, les porcelaines, le poivre, le satin coloré, le riz et d'autres céréales. Donc voilà, on a là, en raccourci, les termes de l'échange hein, qui ont pu s'opérer à la faveur d'un voyage entre des Africains de la côte somalienne et des Chinois venus de Chine. Cependant, cet exemple-là ne doit pas nous faire croire qu'il était régulier pour des voyageurs chinois de se rendre en Afrique. Pas du tout. On a affaire avec le voyage de Zhengye à une espèce d'exception, à un moment où de très fort impérialisme chinois, mais très momentané aussi, hein, qui a duré quelques décennies, et d'une véritable ambition chinoise à cette époque-là de découverte des mondes lointains. La vérité est que la Chine, si la Chine a été connectée à l'Afrique, ou l'Afrique à la Chine, ou si plus généralement l'Afrique a été connectée à l'Asie, ça n'a pas été directement. Et c'est l'une des choses sur lesquelles je voudrais insister, cette connexion de l'Afrique au reste du monde, ou cette mise en connexion de toutes les parties du vieux monde, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, ne s'est pas faite sur des chemins directs, hein, mais s'est faite par toute une série, par une chaîne de cheminement indirect. Donc voici une carte, toujours sur un fond Google Earth, voilà, et on peut positionner sur ce globe la chaîne de réseaux régionaux qui emboîtaient, concaténaient les uns aux autres, permettaient à des produits de circuler, notamment à des produits à haute valeur ajoutée, des produits de luxe, hein, de circuler d'un bout à l'autre du vieux monde. Ce qui me permet de préciser une chose sur le type de mondialisation à laquelle on assiste au Moyen-Âge, qui en est une. Bon, ça n'est pas la même qu'aujourd'hui, dans le sens où n'importe quel individu aujourd'hui, venant du Maghreb ou venant d'Europe occidentale, peut d'un trait d'avion se rendre directement à l'autre bout du vieux monde. Tel n'était pas le cas au Moyen-Âge, et si quelques très rares exceptions existent de voyageurs qui ont pu se rendre d'un bout à l'autre, en règle générale, les réseaux marchands, déjà considérablement étendu hein, à l'intérieur de ces aires géographiques, s'arrêtait à des portes, à des seuils géographiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces réseaux commerçants devaient s'appuyer sur de très très fortes loyautés et formes de cohésion ethnique ou linguistique ou religieuse ou autre hein, qui supposaient des espaces relativement restreints d'extension. Bon. Et sorti de ce monde-là, un voyageur était dans un monde totalement différent et prenait de très très gros risques. Donc on a là toute une chaîne de réseaux commerciaux régionaux qui permettent l'acheminement des produits à des portées beaucoup plus lointaines que ce que les hommes eux-mêmes étaient capables de faire. Bon, c'est une banalité, mais les marchandises à cette époque-là voyagent beaucoup plus loin que les marchands. Alors, un autre facteur sur lequel il est important d'insister, c'est que si cette chaîne de réseaux marchands a été si active au Moyen-Âge, c'est parce qu'il a existé dans la partie, on pourrait dire, centrale de notre vieux monde, hein, un ensemble civilisationnel, qui a d'abord été unifié pendant très peu de temps, pendant 2 siècles, sous la forme d'un empire politique, bon, le califat, mais qui ensuite, cette unité politique s'est désagrégée et a laissé place, malgré un fractionnement politique, à une entité culturelle, économique, au sein de laquelle, en dépit de la diversité et religieuse en particulier, a laissé place à une très très forte unité économique, notamment un étalon commun, la monétaire, et puis des règles juridiques qui s'imposaient à l'intérieur, issues du Coran, et qui s'imposaient à l'intérieur de cette grande zone. Cette ère civilisationnelle, c'est évidemment l'islam. Et qui on pourrait dire, sans même avoir à forcer le trait, qui pour la première fois dans l'histoire réussissait à englober dans un même espace les bassins économiques de la Méditerranée et de la mer d'Arabie ou de l'océan Indien. Bon. Et dans cette zone active, au sein de laquelle les mêmes règles juridiques commerciales, le même étalon monétaire s'exprimait, cet ensemble civilisationnel a considérablement aidé à dynamiser les réseaux marchands à très très longue distance entre les différentes parties du vieux monde, on pourrait dire entre les trois grandes parties du vieux monde que sont l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est à partir des frontières de cet ensemble civilisationnel que de nouveaux fronts commerciaux se sont ouverts dans toutes les directions, et en particulier en direction de l'Afrique, ou en tout cas d'une Afrique qui n'avait pas été de cette façon-là connectée dans les siècles antérieurs. Et la zone que j'ai dessinée en jaune à l'image est la zone d'Afrique qui se retrouve connectée pendant tout le Moyen-Âge, en gros entre le 8e et le 14e, 15e siècle, se retrouve connecté de façon très active avec le reste du vieux monde. Alors je m'empresse là aussi d'apporter de faire une remarque. Il n'est pas question de dire que c'est grâce aux marchands arabes et berbères ou persans, c'est-à-dire grâce aux marchands venus du Nord, que cette Afrique-là s'est retrouvée connectée au reste du monde. Il y a bel et bien une interface qui s'opère entre des marchands arabes et berbères, qui effectivement sont ceux qui font le déplacement à travers le Sahara en particulier, et des marchands africains de l'autre côté. Il n'y a pas de commerce marchand sans qu'il y ait des partenaires marchands. Alors c'est dans cette zone... Donc c'est dans cette zone, je reviens un tout petit peu en arrière, c'est dans cette zone en jaune sur ma carte que j'appelle le croissant africain médiéval que se développe l'essentiel des formations politiques que nous connaissons dans les sources et par l'archéologie au Moyen-Âge. Alors cette proximité entre Asie et Afrique s'exprime d'une façon assez intéressante et assez visuelle et assez graphique dans une carte médiévale qui est due à un fameux géographe arabe qui s'appelle Al-Idrissi, géographe arabe qui travaillait à la cour d'un roi chrétien, Roger II de Sicile, au milieu du XIIe siècle, et qui nous a laissé, sous la forme de ce planisphère, une représentation de sa vision du monde. Alors, Il faut la retourner mentalement, parce que vous voyez que l'Europe est en... La Méditerranée est en plus ou moins au milieu, l'Europe est en bas à droite, l'Asie est à gauche et l'Afrique est en haut. Donc le sud est donc en haut. J'ai surligné ça pour que ce soit plus clair. Et vous voyez que la forme qui est donnée à l'Afrique la fait se rebiquer vers l'Asie et donne ce résultat assez intéressant de voir que le sud de l'Afrique se trouve en face de l'extrémité asiatique. L'extrémité de l'Afrique et l'extrémité de l'Asie se retrouvent face à face, voilà, et simplement séparées par une île qui n'est pas Taïwan, mais qui est donc Madagascar. Alors je reviens sur mon croissant médiéval africain et sur lequel j'ai à présent positionné quelques-uns quelques-unes des formations politiques les plus remarquables que l'on connaît dans les sources. Vous voyez, donc au Sahel occidental, le Ghana et le Mali, et puis toute cette région du Sahel central et oriental, où vous trouvez d'abord Gao sur la boucle du fleuve Niger, le Kanem-Bornou autour du lac Tchad, toute la région du Nil Moyen, où là aussi se sont développés des royaumes chrétiens, musulmans au Moyen-Âge, les formations politiques d'Éthiopie, vous avez à la fois un royaume chrétien et des royaumes et des sultanats musulmans, et puis toute une chaîne de cités-états, des royaumes aussi, mais sous la forme de cités-états, le long de ce qu'on appelle la côte Swahili, c'est-à-dire entre la Somalie et le Mozambique, et puis le nord de Madagascar. Et j'ai positionné aussi sur la carte les pastilles jaunes, qui sont les principales mines d'or africaines connues à cette époque-là. Et puis les marchandises qui circulent dans les deux sens. Alors, pour vous donner une idée du type de documents avec lesquels il est possible de travailler pour faire l'histoire de l'Afrique à cette époque-là, j'en ai sélectionné deux. Celle de droite, vous pouvez, je suppose que chacun d'entre vous le voit, est écrite en graphie hébraïque, mais la langue qui est écrite n'est pas de l'hébreu, c'est de l'arabe. Et c'est une lettre qui date, qui provient d'un corpus très très fameux d'archives et assez exceptionnel qui vient de la Géniza du Caire. La Géniza, c'est dans une synagogue, la cache ou la pièce secrète dans laquelle on conserve tous les documents écrits qui conservent le nom de Dieu. Bon, de tels documents n'étant pas destructibles, ne devant pas être détruits ou jetés, ils sont conservés dans une cache ou dans une pièce secrète. Bon. Et évidemment, vous vous en doutez, lorsque de tels caches sont découvertes, ils nous livrent des documents absolument exceptionnels, non seulement des courriers privés, lesquels se finissent souvent par des formules de bénédiction ou autres qui comportent donc le nom de Dieu, et puis tout ce qui est contrat commercial, contrat privé, etc., est forcément scellé du nom de Dieu. Et on a là, avec la Géniza de la synagogue des juifs palestiniens du Caire au Moyen-Âge, entre le 10e et le 13e siècle, on a là une collection absolument exceptionnelle qui a été mise au jour à la fin du 19e siècle, au moment où cette synagogue médiévale a été détruite pour être reconstruite. Et parmi ces documents, il y a cette lettre qui est adressée par un marchand juif de Kairouan, en actuelle Tunisie, à son partenaire commercial au Caire, raison pour laquelle la lettre a été conservée à la Géniza, et qui nous parle, tout simplement, qui nous dit que ce marchand de Kairouan a confié un certain nombre de marchandises à la grande caravane qui avait collecté des différents produits venant de Marseille ou autres pour les amener au Caire. Et il mentionne également la grande caravane annuelle venant de Sigil Massa au Maroc et qui venait déjà au préalable de Ghana, hein, au sud du Sahara. Et puis à gauche, un manuscrit d'un auteur arabe cette fois, donc là aussi en arabe, cet auteur c'est Al-Bakri, auteur arabe de l'Espagne alors islamique, il était de Cordoue, non ? Il s'est beaucoup appuyé, géographe de son état, il a beaucoup collecté d'informations sur les différentes parties du monde, il a rédigé un livre absolument magistral sur le sujet, il s'est aussi beaucoup appuyé sur les archives qui existaient à Cordoue, et il est l'un des premiers à nous parler très en détail du royaume de Ghana. Royaume de Ghana, qui n'est pas du tout au Ghana, qui est dans le sud de la Mauritanie actuelle et qui a été la première grande formation politique africaine connue au nord du Sahara pour être le principal exportateur d'or en direction de la Méditerranée. Et vous avez là la première page de la description du royaume de Ghana par Al-Bakri. Ce qui me donne l'occasion de continuer précisément pour vous parler un petit peu du Ghana. est à la fois illustration de ce qu'était ce royaume et en même temps illustration du régime documentaire auquel est soumis l'historien qui travaille sur ces régions. Vous avez en haut à droite une description du Ghana par une sélection de textes, quelques extraits de textes se rapportant au Ghana par Al-Bakri, et puis un extrait venant de Idrissi, l'auteur dont j'ai déjà parlé, qui nous parle du Ghana à peu près un siècle après. Il est très intéressant de comparer les deux textes. Vous allez voir, je lis donc déjà le passage sur le passage de Al-Bakri. Le roi actuel s'appelle Tankaminin. Il prit le pouvoir en 1062. Donc quelques années seulement avant que Al-Bakri n'écrive son propre livre, ce qui veut dire que pour ce sujet-là, les informations d'Al-Bakri sont très à jour. Tankaminin est un homme intrépide, doté d'un vaste royaume. Il détient un pouvoir redoutable. Le roi donne audience pour réparer les injustices dans une maison à coupole. Autour de cette maison sont rangés 10 chevaux caparaçonnés avec des étoffes d'or. Derrière le roi se tiennent 10 pages. Portant des boucliers et des épées en or. À sa droite sont rangés les fils des princes de son empire, aux cheveux tressés et entremêlés d'or et portant des habits magnifiques. Le gouverneur de la ville est devant lui, assis par terre au milieu des ministres, également assis par terre. Devant la porte de la coupole, des chiens de garde qui ne quittent presque jamais le roi sont ornés de colliers d'or et d'argent. Leur religion est le paganisme. Ils adorent des fétiches. À la mort d'un roi, ils dressent un immense dôme en bois au-dessus de sa sépulture. Ils posent près du mort ses parures, ses armes, ses objets personnels pour manger et boire. Vous voyez, une ambiance à la fois, on pourrait dire, très africaine et en même temps un décorum royal dans lequel on sent bien qu'il y a une part de protocole et de mise en scène et d'ostentation autour de l'or. Bon. Et puis alors un peu moins d'un siècle plus tard, sous la plume de Al-Idrissi, Ghana est la plus grande des cités des Noirs. Là se rendent d'opulents commerçants de tous les pays environnants et de tous les pays du Maghreb. Les habitants sont musulmans. Les gens du Maghreb savent tous que le roi possède dans son château un bloc d'or pesant 30 livres. C'est une pépite d'or telle qu'elle a été créée par Dieu, ni fondue en lingots au feu, ni travaillée avec un instrument. On y a cependant pratiqué un trou et on y attache le cheval du roi. Ce sultan est, au demeurant, le plus juste des hommes, à ce qu'on dit. Il est dans sa manière de faire, proche des gens et juste envers eux. Ainsi, chaque matin, il va par les rues de la ville, faisant le tour de la cité. Si quelqu'un a eu une injustice ou quelque malheur, il lui ordonne de s'approcher et il reste avec lui jusqu'à ce que l'injustice soit réparée. Alors la chose intéressante avec ces deux textes, c'est qu'ils nous montrent une évolution politique et religieuse entre les deux périodes. Et c'est là l'un des aspects de ce régime documentaire à trous, hein, qui est celui avec lequel on travaille, c'est que ce sont à peu près les deux seuls textes un peu sérieux, un peu conséquents, dont on dispose sur le royaume du Ghana. Ce qui signifie que l'historien n'est pas du tout en capacité de masquer les trous, hein, de plâtrer le récit pour raconter de quelle façon est-ce que le roi du Ghana s'est converti à l'islam, ou même s'il s'est converti tout court, hein, ou est-ce qu'on n'a pas affaire à une autre dynastie qui a pris le pouvoir. Voilà, donc tout ça sont des choses qui nous resteront inconnues. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est au tournant du XIe et du XIIe siècle que le royaume du Ghana se transforme au point que la dynastie régnante devient musulmane. Alors, l'archéologie peut venir au secours de ce régime documentaire lacunaire. Et de fait, l'imagerie aérienne ou satellite, donc en l'occurrence il s'agit là d'une photo aérienne infrarouge, permet parfois de repérer des sites archéologiques. Et voilà, ici, donc j'ai surligné ça en très pointillé, voilà, vous avez ici une image qui illustre la présence d'un site archéologique très très important, en vert un peu plus foncé dans le paysage. Un site archéologique très important qui représente à peu près 3 km d'envergure, bon, qui est un tel archéologique, donc une accumulation archéologique qui fait 6 à 8 mètres, à 10 mètres de hauteur d'accumulation, une authentique ville qui dont l'implantation dans le sud-est de la Mauritanie pourrait bien correspondre à ce qu'on sait des descriptions des géographes arabes de cette ville. Al-Bakri, à propos de la ville, nous dit « La ville de Ghana se compose de deux villes situées dans une plaine. L'une des deux est habitée par les musulmans. Il y a 12 mosquées. La ville du roi est à 6 milles de la première. » On aurait donc une ville dédoublée, l'une qui est le siège du roi africain du Ghana, de sa cour, des villages qui sont autour, avec le bosquet sacré dont nous parle Al-Bakri, etc. Et puis donc, à une vingtaine de kilomètres de là, la ville où sont établis les marchands arabes, berbères ou maghrébins en général, et égyptiens, qui sont établis là à demeure. Et certainement en nombre important, puisqu'on a là une ville de type maghrébin, tout à fait importante en termes de taille, qui a fait l'objet de quelques fouilles françaises dans les années 70 et 80, dont j'ai mis une photo de la grande mosquée qui a été découverte là. Des fouilles très importantes en termes de logistique et de vestiges mis au jour, mais qui malgré tout représentent une toute petite fraction de ce site archéologique absolument exceptionnel et qui, en termes de ville ancienne africaine, est certainement le site le plus important d'Afrique. Aujourd'hui, inutile de le préciser, il est dans une région qui est totalement inaccessible et qui le restera longtemps. À nouveau, je trace une grande zébrure sur la carte pour repartir en direction de l'Afrique orientale, où là, dans un paysage totalement différent, qui n'est pas un paysage subdésertique ou de Sahel, qui est un paysage de côte océanique, et un paysage de mangroves, donc de palétuviers, si vous préférez, donc dans une végétation absolument luxuriante. Là, on connaît toute une série de sites archéologiques du Moyen-Âge également, dont l'un sur l'île de Kilwa, a livré les vestiges, encore visibles aujourd'hui, d'une mosquée absolument exceptionnelle, dont je vous présente là une photo, une très 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 belle mosquée bâtie en calcaire corallien, qui date du 14e, 15e siècle, et qui est, si on laisse de côté la mosquée de Tombouctou, qui est en terre, et qui a été rebâtie au fur et à mesure avec le temps, qui est sans doute la plus grande, la plus vaste mosquée ancienne d'Afrique conservée. Et puis, ça n'est pas le seul vestige sur cette île, on a aussi un ensemble de vestiges très très abîmés, qui ont été fouillés et qui ont permis une reconstitution que vous avez en bas à droite de l'image, une reconstitution axonométrique de ce qui ressemble bien à un palais, en tout cas à un palais très intégré, un palais très ramassé, qui condense toutes les fonctions, on pourrait dire, à la fois politiques et commerciales, puisqu'il y a à la fois un débarcadère, c'est-à-dire un escalier qui donne directement sur la plage où vous pouvez accoster les navires, et puis différents espaces dans ce complexe palatial dévolu aux formes de sociabilité, à l'accueil, à la justice, et même au stockage des objets, des marchandises. Et puis je ne peux pas ne pas mentionner le site que je fouille depuis 2 ans avec mon collègue marocain Larbi Herbati, au Maroc, dans le sud-est du Maroc, le site de Sijil Massa, qui était la porte d'entrée qui a été entre le 8e et le 14e siècle, la porte d'entrée du commerce transsaharien, le principal port port saharien, pas port maritime, port saharien, pour la traversée du Sahara par les grandes caravanes de commerçants. Alors, situé à la bordure du désert, entièrement construit en pisé, c'est-à-dire en terre, banché entre des planches, des murs montés entre des planches, et par conséquent très abîmé, très érodé, très difficile à interpréter, mais qui commence malgré tout, depuis 3 ans, à livrer d'un très intéressant niveau archéologique correspondant en particulier aux phases les plus anciennes du site, entre le 8e et le 13e siècle. Alors, un mot maintenant, puisque je vous ai parlé de Ghana au sud du Sahara, côté Mauritanie. Je vous ai parlé de Sijil Massa, dans le sud du Maroc, côté Maroc. Voilà les deux terminaisons d'un grand axe commercial de plus de 2000 km qui traverse ben, l'un des environnements les plus contraignants du monde, hein, qui est le Sahara. Bon. Et ces axes, il faut bien le comprendre, ne sont pas au sens propre des routes, ne sont pas au sens propre des pistes. Hein, ce sont des axes qu'on peut dessiner sur une carte, hein, mais qui étaient amenés au cours du temps à osciller, hein, et en tout cas qui ne passaient jamais au même endroit, à l'inverse d'une voie romaine. Bon. Les seules balises, les seuls jalons de ce type de voie caravanière sont les points d'eau, éventuellement les oasis aménagées, hein, qui jalonnent les parcours. Et puis autre contrainte qui s'exerce sur ces axes à très longue distance, c'est que les terminus, les extrémités de ces axes sont amenés eux-mêmes à se déplacer en fonction de l'environnement politique ou économique d'un côté ou de l'autre. Bon. On sait par exemple que le terminus sud de cet axe était Ghana entre le 8e et le 12e siècle, mais ça a été Mali au 14e siècle. Bon. Et on sait que c'est Tombouctou et Gao, hein, qui à partir du 15e siècle prennent le relais comme principaux terminus sud de ce commerce. Puis il y a des évolutions tout à fait similaires au nord du Sahara, avec Sijil Massa qui joue un rôle très important entre le 8e et le 14e siècle, mais c'est plutôt le Touat en Algérie qui, à partir du 15e siècle, tient lieu de principale tête de pont du commerce au nord du Sahara. Je me suis donc contenté sur cette carte de dessiner non pas des traits qui seraient des fictions de routes, hein, mais plutôt des faisceaux, voilà, au sein desquels évoluent ces routes, et qui permettent de voir à l'échelle de toute la moitié nord de l'Afrique les grandes zones, hein, qui sont des zones au travers desquelles le commerce est mis en œuvre par des grandes routes. Et vous avez donc là un grand axe occidental qui part du sud-ouest du Maroc et qui rejoint la basse vallée du Sénégal et le Ghana. Vous avez, au travers du Sahara central, la route de Sijil Massa jusqu'à Walata, Mali, Tombouctou, sur la partie ouest de la boucle du Niger. Et puis, un peu plus à l'est, une route qui, partant d'Ifriqiya, c'est-à-dire l'ancienne Afrique, enfin l'Ifriqiya islamique, et Tripoli, qui rejoint l'extrémité de la boucle du Niger ou l'Aïr au Niger. Et puis une autre route qui rejoint, là encore, la Tripolitaine et le lac Tchad. Alors, je ne peux pas non plus ne pas parler de royaume chrétien, puisque dans cette ambiance de mise en relation à très longue distance de l'Afrique, ou en tout cas de ce croissant médiéval africain avec le reste du monde, eh bien, des formations politiques, des sociétés chrétiennes, qui avaient été christianisés dans l'Antiquité tardive, ont parfois pu se maintenir et voir se développer en partenariat étroit ou en voisinage étroit, voire dans certains cas en symbiose économique très étroite avec les voisins musulmans. C'est le cas dans deux régions, l'une la Nubie, donc l'extrême nord du Soudan le long de la vallée du Nil, où plusieurs royaumes chrétiens sont connus, les royaumes de Nobadia, Makouria et Alodia, qui ont été progressivement colonisés et gagnés à l'islam par le nord et qui ont fini par s'éteindre définitivement aux alentours du 14e, 15e siècle, mais qui ont laissé des vestiges tout à fait impressionnants, et notamment des sites capitales, hein, bon, et puis des cathédrales, des monuments chrétiens, des églises et des cathédrales, dont la cathédrale de Faras, qui est là aussi une espèce de miracle archéologique, puisqu'il s'agit d'un, d'un ensemble monumental découvert accidentellement sous une colline, qui était en fait une colline artificielle issue de l'effondrement d'une forteresse mamelouk qui avait été construite au-dessus tardivement. Et puis, lors des fouilles de sauvetage lancées par l'UNESCO au moment de la construction du barrage d'Assouan, une équipe polonaise a fouillé ce site et a découvert donc sous cette colline une cathédrale. Et construite en briques et en moellons de pierre et en terre, qui a livré notamment un ensemble pictural tout à fait exceptionnel avec ses fresques, où vous voyez en fait la Vierge Marie à l'enfant, la Vierge à l'enfant à droite, bénissant un évêque nubien qui ici s'appelle Marianos. Et puis à droite, autre contexte, cette fois-ci en Éthiopie actuelle, où là aussi, on le sait, un royaume chrétien se maintient, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, une société chrétienne issue de l'Antiquité tardive, de tradition monophysite, s'est maintenue, donc documentée, là je l'ai dit tout à l'heure, par des sources qu'elle a produites elle-même au cours du temps, et qui a laissé là aussi de remarquables vestiges architecturaux, notamment le fameux ensemble architectural de Lalibela, c'est-à-dire des églises entièrement sculptées dans le rocher. À l'exemple de celle-ci, Georgis, l'église de Saint-Georges, sculptée, entièrement sculptée et détourée dans la masse rocheuse. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, on n'a pas là des bâtiments construits à partir d'un sol, on a là des bâtiments qui sont détourés, sculptés extérieurement et intérieurement à partir d'un sol sur lequel nous marchons, sur lequel le photographe est debout. D'accord ? Bon. Donc on a là une. Voilà. Alors. Pour avancer et pour me rapprocher de la fin de cette conférence, voici un document tout à fait exceptionnel qu'on appelle l'Atlas catalan. L'Atlas catalan date de 1375, il est à la Bibliothèque nationale à Paris. Il a été offert par un souverain ibérique au roi de France à la fin du XIVe siècle. Et il est signé, on connaît les auteurs, qui sont deux cartographes, juifs, père et fils, qui étaient des membres d'une fameuse école cartographique de Majorque, au Baléares. Et cette carte, on pourrait dire, est la synthèse des connaissances de cette époque-là sur le grand pourtour méditerranéen, un pourtour qui va assez loin puisque la frange basse, voyez, au sud va jusqu'à ce qu'on appellerait aujourd'hui le Sahel. Bon. Et donc synthèse cartographique tout à fait remarquable puisqu'elle mettait à profit les connaissances qui pouvaient être récoltées par deux cartographes juifs pouvant mettre à contribution la diaspora juive de Méditerranée, et puis évidemment aussi tout l'environnement islamique au sein duquel circulent les marchands, les marchandises et les informations. Et en particulier, j'ai surligné avec des petites pastilles jaunes ici un certain nombre de villes ou d'étapes qui constitue à la fois le principal axe transsaharien de circulation des informations et des marchandises, mais bien évidemment aussi l'axe de circulation des informations qui ont précisément permis de constituer cette carte. Et la partie basse de cet atlas représente une espèce de frise avec toute une série de personnages, dont vous voyez peut-être à gauche un personnage voilé sur un chameau, à côté un roi noir avec une couronne fleur de lysée, et puis encore d'autres chameaux, et puis encore d'autres rois, etc. Des éléphants, bon, bref, un univers caricatural de cet Alain, dessiné par des cartographes qui n'avaient pas forcément vu dans leur vie ni de chameaux ni d'éléphants, mais qui malgré tout restitue des informations tout à fait pertinentes et tout à fait remarquables sur cette société sahélienne. Voici un zoom sur le roi noir, dont vous voyez qu'il est assis en majesté sur un trône doré, qu'il porte lui-même une tunique dorée, qu'il arbore un sceptre fleur de lysée, donc influence sur le cartographe des régalias du roi de France, couronne en or, et puis une énorme boule en or, énorme pépite d'or dans la main, qui symbolise à la fois son pouvoir et puis le prestige qu'avait acquis ce roi pour les sociétés méditerranéennes de l'époque. Ce roi, on le connaît, il s'appelle Moussa, il était sultan du Mali au XIVe siècle, il était musulman, il a fait le pèlerinage à la Mecque et il est passé au Caire. Et au Caire, il a rencontré beaucoup de gens. Il se trouve qu'une vingtaine d'années après ça, un très grand chroniqueur arabe qui s'appelle Al-Oumari s'est livré à une véritable enquête journalistique en interviewant tous les gens qui avaient rencontré Moussa. Bon, et on a donc là, au sujet de ce souverain, une information très très riche. Et on a là aussi cette très intéressante vignette autour de ce roi, où vous voyez peut-être donc à sa droite, à notre gauche à nous, un bâtiment à coupole surmonté du toponyme Tenbouk, qui n'est autre que Tombouctou, et puis toute une série d'autres toponymes et de lieux qui sont dessinés, Gaou Gaou à droite et Gao. Et puis on a un cartouche, ou une petite légende là-haut, écrite, comme chacun peut le voir à nouveau, en catalan, qui se traduit comme ça. « Ce seigneur noir est appelé Moussa Méli, seigneur des Noirs de Guinée. Ce roi est le plus riche et le plus noble seigneur de toutes ses parties par l'abondance de l'or qui se recueille en ses terres. » Donc voilà, document important parce qu'il nous... non pas tant parce qu'il nous apprend en réalité sur ces sociétés, mais parce qu'il effectue la synthèse des connaissances de cette époque-là et nous permet de comprendre que certains royaumes africains avaient réussi à apparaître dans le cours de cet échange commercial avec les sociétés du monde islamique comme des partenaires commerciaux absolument incontournables, exerçant un monopole sur la fourniture d'un certain nombre de biens à très très haute valeur ajoutée, en particulier l'or. Et puis j'en ai fini là, et je vous remercie.
C'était l'Agora des Savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.